extraordinaire. Mesdames et messieurs, je vous propose d'ouvrir cette séance du conseil municipal, si vous le voulez bien. Quand vous voulez, hein, pas de problème. On peut attendre un peu, mais après, ne venez pas me reprocher que de terminer trop tard. Avant de procéder à l'appel, pour vérifier si nous avons le quorum, je me dois de vous dire que la ville de Nangy, en quelques mois, enfin depuis le dernier conseil municipal, a perdu pas moins de 4 élus, 4 anciens élus. Je veux parler de M. Francis Marseille, qui a été conseiller municipal de 1989 à 1995. Je veux parler de Mme Rosemarie Lafont, qui a été conseillère municipale de 2008 à 2012. De Pierre-Alain Carré, qui a été conseiller municipal délégué à la programmation culturelle, également de 2008 à 2012, et plus récemment encore, de Denise Abel, qui a été élue de 1977 à 1989 et a été maire adjointe chargée de la culture. Voilà. En mémoire à ces quatre élus, je vais vous demander de faire une minute de silence. Roger Cypré. Mme Nadécote Galli est absente, excusée, représentée par Clotilde Delagoutte, André Palancade, Anne-Marie Hollas, Claude Bedard, Sylvie Galochet est en retard, donc, comme Michel veut, donc, ils ont une réunion du syndicat mixte, le SMEP à Mont-Bris Central. Donc, ils vont nous rejoindre en cours de séance. En attendant, Mme Galochet a donné le pouvoir à M. Claude Godard. Roger Cypré. Mme Bougidi est absente. M. Nadouna, je pense également. Simone Jérôme. Présent. Charles Murat.
Présent.
Je vous propose de le nommer secrétaire de séance. Pas d'objection. Je vous remercie. Virginie Salitrin, Karine Jarry, Michel Veu est donc en retard et sera représenté par M. Murat d'ici son arrivée. Daniel Boudet,
présent.
Pascal Huet, Sandrine Nagel,
présent.
Mehdi Ben Salem est absent, excusé, représenté par Virginie Salitrin, Jean-Pierre Gabarou,
présent.
Monique De Villene est absente, représentée par M. Saussier. Catherine Meuse de Viesse est absente, représentée par M. Gabarou. M. Saussier.
Présent.
Mme Moilly est absente. Mme Chute.
Présent.
Et Mme Rappaille.
Présent.
Voilà, le quorum est atteint. Nous pouvons donc valablement délibérer. Donc nous allons aborder l'ordre du jour par l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal en date du 4 novembre. Nous n'avons reçu aucune observation, mais je pense que, comme d'habitude, vous avez voté contre. Enfin, jusqu'au bout. Bien. Donc, qui l'approuve ? Ça va nous faire 20 voix, c'est cela. Qui s'abstient ? Qui s'oppose ? Donc ça va nous faire. Voilà, quand vous avez un pouvoir, vous avez les deux. Voilà. Donc, ça nous fera 6 voix contre. Y a-t-il des observations, des questions concernant les décisions prises dans le cadre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, du numéro 81 au numéro 86 ? Il n'y en a pas. Et en ce qui concerne les conventions signées par le maire, du numéro 184 au numéro 203, non plus. Très bien. Nous allons donc pouvoir examiner les propositions de délibération. La première est une délibération en forme de vœu et qui concerne l'avenir de l'organisation des finances publiques en Seine-et-Marne, qui nous est proposée comme le projet de nouveau réseau de proximité des finances publiques en Seine-et-Marne. Nouveau réseau de proximité. Dans le cadre de la politique gouvernementale, le ministère de l'Action et des Comptes Publics a missionné les directions générales des finances publiques, les DGFIP, pour renforcer fortement la présence des services publics dans les territoires et moderniser l'action publique. Aujourd'hui, parce que c'est très très intéressant toujours de bien lire les intitulés, renforcer fortement la présence des services publics dans les territoires et moderniser l'action publique. Le projet d'un nouveau réseau de proximité de la DGFIP prévoit, en réalité, ça c'est mon appréciation, l'inverse de ce qui a été annoncé. En effet, en Seine-et-Marne, c'est la fermeture de 19 trésoreries et de 7 services des impôts aux particuliers et aux entreprises qui est annoncé. Ces services vont disparaître à partir de... Alors, on nous avait indiqué d'abord à partir du 1er janvier 2020, en fait, c'est à partir maintenant du 1er janvier 2021, j'y reviendrai dans mon exposé. Il s'agit, je le pense, en tous les cas, d'une décision très regrettable, tant sur la forme que sur le fond. Le directeur départemental des finances publiques a communiqué sur ces bouleversements par un simple courrier à l'attention des présidents des intercommunalités, dans un premier temps. Les maires des communes où se situent encore des trésoreries n'ont eu l'information que par les moyens intermédiaires. Quand bien même une réunion de concertation a été proposée aux élus locaux de chaque territoire, celle-ci ne partait pas sur ces disparitions, mais uniquement pour discuter du calendrier des fermetures déjà programmées. Concertation donc relativement limitée. Le maire de Nangy a du coup été un petit peu choyé puisqu'il a eu droit à une rencontre le 11 septembre avec le directeur départemental des finances publiques en mairie. Et celui-ci a montré une fois de plus, dans la volonté de concertation préconisée par le ministère de l'Action des Comptes Publics, son refus d'écouter nos arguments. Tout au plus, il a concédé que la fermeture de la trésorerie de Nangy soit reportée au 1er janvier 2021, afin de laisser un délai pour trouver une nouvelle utilisation des locaux construits à cet effet, parce que je rappelle que la trésorerie de Nangy est un bâtiment communal et qui est loué par les services de la DGFIP. Mais pire, alors que le ministre de l'Action et des Comptes Publics a annoncé le 17 septembre, c'est-à-dire 6 jours plus tard, dans un entretien à la Gazette des Communes, que la concertation serait prorogée de 3 à 8 mois pour ceux qui ne se sentent pas prêts, le directeur départemental des Finances Publiques de Seine-et-Marne, dans un courrier en date du 4 novembre 2019, confirme la fermeture de la trésorerie de Nangy le 1er janvier 2021. Quelle est donc cette conception de la concertation ? Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne n'est-il pas lié par les engagements de son ministre ? Nous ne sommes pas prêts, donc nous aurions droit au moins à 8 mois de concertation supplémentaire à partir du 17 septembre, si je compte bien. Si cette réforme était appliquée, dorénavant, un usager qui souhaiterait prendre contact avec la DGFiP devrait soit le faire par téléphone, soit par Internet. S'il souhaite rencontrer un agent de l'administration fiscale, la DGFiP mobiliserait un fonctionnaire, le plus souvent par visioconférence, auprès des maisons France Service ou de certaines communes pour assurer une permanence par semaine. Nous avons aujourd'hui une trésorerie qui est ouverte au public tous les matins. Mais pour assurer une permanence par semaine, et seulement si les collectivités prennent en charge les modalités de cet accueil. Pour les modalités de paiement des impôts autres que par voie dématérialisée, elles devraient dorénavant se faire auprès d'un buraliste ayant adhéré à ce dispositif. Donc si vous devez demain vouloir payer vos impôts en numéraire, eh bien, vous irez faire la queue et vous serez accueilli dans des conditions de confidentialité très importantes et dans des conditions de sécurité qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles qui étaient ou qui est des charges de la construction d'une trésorerie. Alors, nous allons donc, renvoyer chez les buralistes la gestion de numéraire. Ce n'est peut-être pas faire en sorte que ces commerces soient moins ciblés par les cambrioleurs. Les communes seraient également impactées par cette réorganisation, que ce soit pour procéder au dépôt des recettes des régies financières. Celles-ci n'auront plus lieu donc à la trésorerie, mais au bureau de poste, quand il y en a un. Les agences postales communales, évidemment, ça ne change pas rien, ou pour continuer à bénéficier d'un accompagnement dans la gestion budgétaire et comptable, avec un interlocuteur unique par canton, mais des grands cantons, pas les cantons d'avant. Donc le canton de Nancy, aujourd'hui, c'est un nombre assez considérable de communes. Afin de favoriser l'implantation, la commune de Nancy a investi, et s'est endettée pour la construction des locaux de la trésorerie, tout en répondant aux exigences du cahier des charges de la DGFiP à l'époque, notamment par rapport aux normes sécuritaires. Il ne faut pas non plus oublier que cette politique vise essentiellement à faire des économies par de nouvelles suppressions d'emplois au sein de la DGFiP, 450 suppressions de postes en Seine-et-Marne sur les 10 dernières années ont déjà été effectuées, justifiant ainsi la mobilisation de l'ensemble des organisations syndicales et de ses fonctionnaires. Ainsi, il ne peut être considéré avec sérieux que cette restructuration puisse favoriser l'accès des citoyens aux services publics. Elle ne ferait qu'accentuer un peu plus les inégalités des territoires et une nouvelle fois au détriment des zones rurales. C'est pourquoi, en réponse au courrier du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 4 novembre 2019, il est proposé au conseil municipal d'adopter une motion exprimant son opposition à la réforme qui tente d'être imposée. Là, je vous lis la totalité de cette motion. Le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L21-21-29, vu le courrier du directeur départemental des finances publiques en date du 7 juin 2019, adressé au président de la communauté de communes de la Brie-Nangissienne, présentant son projet de nouveau réseau de proximité des finances publiques en Seine-et-Marne, vu le courrier conjoint à l'ensemble des organisations syndicales de la Direction générale des finances publiques en date du 29 juillet 2019, alertant des conséquences de ce projet de nouveau réseau de proximité des finances publiques en Seine-et-Marne, vu le courrier du président de la communauté de communes de la Brie-Nangissienne en date du 25 octobre 2019, demandant le maintien de la trésorerie de Nangy, vu le courrier du directeur départemental des finances publiques en date du 4 novembre 2019, adressé au maire de Nangy pour réaffirmer la mise en œuvre du projet de nouveau réseau de proximité des finances publiques, considérant l'exposé de la situation relative au projet de nouveau réseau de proximité des finances publiques, considérant l'opportunité à exprimer solennellement une opposition à ce projet en l'absence de véritable concertation avec les collectivités territoriales. Article 1. Émet un avis défavorable au projet de nouveau réseau de proximité des finances publiques en Seine-et-Marne, tel qu'il a été présenté par M. le directeur départemental des finances publiques. Article 2 demande le maintien des trésoreries du département avec du personnel dédié. Article 3 demande que l'engagement pris par le ministre de l'Action et des Comptes Publics le 17 septembre 2019 dans un entretien à la Gazette des Communes de proroger, je cite, de proroger la concertation de 3 à 8 mois pour ceux qui ne se sentent pas prêts, soit respecté par M. le directeur départemental des Finances Publiques. Article 4 sollicite auprès du ministère de l'Action et des Comptes Publics, de la Direction générale des Finances Publiques et des Services de l'État, une véritable concertation avec les élus locaux et la reprise du dialogue avec les collectivités territoriales. Voilà donc la motion que je vous propose d'adopter. Y a-t-il des interventions ? Je vous en prie, madame.
Monsieur le maire, suite à l'article paru dans le journal de la République le 28 novembre, il va s'ouvrir au 1er janvier 2020 une maison France Service à Fontenoy. Pourrons-nous espérer à cette maison France Service soit également ouverte sur Nangis à compter du 1er janvier 2021 ?
Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de cette nouvelle organisation. Alors, la maison France Service qui va s'ouvrir sur le territoire de la commune, donc s'ouvre à Fontenoy, puisque c'est le centre social Nangis-Lude qui a effectivement décidé de se porter candidat. Avec dans son examen de la situation, le fait de considérer que même s'il y a des services publics qui se délocalisent, une fois de plus, il y a encore un peu plus à Nangis, à Mormant, à Pernuy-les-Temps que dans les autres communes. Donc leur objectif qui leur appartient, parce que qui est en discussion avec la communauté de communes. Et plutôt, effectivement, d'avoir un point permanent et un certain nombre d'antennes. Alors, j'aurais tendance à dire que si on pouvait considérer que cette initiative pouvait être un plus là où les services sont déjà partis, j'ai bien peur que ce plus ne résolve guère la situation si on continue à voir partir les uns après les autres la représentation de l'État dans nos communes. Je vois mal. Je rappelle quand même que tout au long des années, nous avons perdu la permanence du Pôle emploi, nous avons perdu la permanence de la CAF. Madame Jérôme pourra en ajouter bien d'autres. La sécurité sociale, évidemment, à chaque fois le mécanisme est le même. Ce sont les collectivités qui accueillent et qui essaient de faire le lien sans avoir forcément toutes les compétences. Nous, on voit de plus en plus de personnes venir nous voir avec leur dossier de retraite. Avec ni le temps ni vraiment la compétence pour gérer un dossier de retraite avec sa complexité. Donc je doute fort que les maisons de services publics, de services au public, qui vont être dotées de 2-3 postes, soient en capacité de faire beaucoup mieux. Donc voilà, alors faut-il revendiquer la présence à Nangis ? Moi, dans un premier temps, j'aurais plutôt tendance à revendiquer que les services publics qui existent ne quittent pas Nangis. Voilà. Et c'est l'objet de cette motion. Bon, j'ai bien conscience que pour qu'elle ait un peu d'efficacité, il faut qu'elle soit reprise à l'ensemble des communes de Seine-et-Marne. Pour dire qu'il nous faut un autre dispositif pour mieux manier les territoires et puis peut-être procéder à des expérimentations avant de décider d'un seul coup d'un retrait. Alors c'est vrai que des trésoreries qui ferment, il y en a eu beaucoup qui ont fermé ces temps derniers. Nous avions jusqu'à maintenant l'engagement qu'il y aurait une trésorerie non maintenue dans chaque communauté de communes. Maintenant, on est sur bien autre chose qui n'a plus rien à voir avec les communautés de communes. Un correspondant pour les collectivités par canton, au mieux. Un canton, des fois deux. Si on veut avoir une demi-journée par semaine, un représentant de la DGFiP, eh bien, on lui aménagera un bureau parmi. Et puis, ce que je vous expliquais par rapport donc, à la collecte des impôts en numéraire dans les bureaux de tabac et les régies qui seront portées dans les bureaux de poste. Le bureau de poste est à peine mieux sécurisé qu'un bureau de tabac. Je rappelle, et puis à faire à des missions très différentes. D'autres questions ? Est-ce que je peux mettre cette motion aux voix ? Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? Et donc adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La délibération 149 porte sur le rapport 2019 de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Je vais passer la parole à Mme Lagoutte pour vous la présenter.
Merci, monsieur. La commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, est chargée à la communauté de communes de procéder à l'évaluation des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation. À ce titre, la CLECT établit un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de ressources, mais également sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à la communauté de communes et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer dans un délai de 9 mois à compter du transfert. Dans le cadre de la reprise de la ligne de transport numéro 51 en Angibus, la communauté de communes de la Brie-Langicienne a réuni les membres de la CLECT pour étudier la question du financement et des éventuelles participations au regard des travaux menés conjointement avec la commune de Langy pour le redéploiement de la ligne. En effet, ce redéploiement opérationnel depuis septembre prévoit la desserte de la commune de Langy par une boucle unique sous la forme d'une ligne régulière, plus un déploiement d'une ligne virtuelle en rabattement à la gare de Langy depuis la commune de Saint-Just-en-Brie. Au regard de cette répartition, la municipalité de Langy proposait une participation financière proportionnelle à l'affectation de cette ligne d'un montant de 37 355 euros sur les 51 000 euros nécessaires au fonctionnement de la ligne. Or, la CLECT, à la majorité de ses membres, a considéré qu'il revenait à la commune de Langy de continuer à financer cette ligne de transport dans sa globalité et s'est donc prononcé en faveur d'une diminution d'attribution de compensation accordée à la ville de Langy de 51 000 euros. Cette décision a fait l'objet du rapport CLECT de 2019 sur lequel le conseil municipal est invité à délibérer. Transmis le 16 septembre 2019, il dispose d'un délai de 3 mois suivant cette transmission pour le faire, soit le 16 décembre 2019. Il est proposé aux membres de l'Assemblée de s'abstenir à la demande d'approbation de ce rapport dans la mesure où la position de la CLECT est contestable sur le plan politique et juridique. Tout d'abord sur le plan politique, puisque cette position va à l'encontre des travaux menés avec la communauté de communes de la Brie-Langicienne en matière de transport pour une juste répartition de la gestion de la ligne 51. Le compte-rendu de la CLECT en sa séance du 13 juin, Sur le plan juridique, ensuite, puisque la CLECT justifie cette décision au regard du transfert de compétences de la ligne entre la ville de Langy et la CCBN. Or, il ne peut y avoir de transfert de compétences que si la ville est détentrice de cette compétence et en matière de transport, seule Île-de-France Mobilité en est le détenteur, confirmé par l'article 1240-1 du Code des transports et réaffirmé par la convention partenariat du réseau Bassin Est Seine-et-Marne et Montois entre Île-de-France Mobilité, la société Procar et la ville de Langy en date du 2 août 2017. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce rapport. Nous vous proposons en article 1 de prendre acte des travaux de la commission locale d'évaluation des charges transférées, retranscrits dans le rapport 2019. Dans l'article 2, de s'abstenir sur l'évaluation de la charge transférée pour le Langibus. et dans son article 3, de prendre acte que seul le conseil communautaire est compétent pour définir le montant de l'attribution de compensation liée à ce transfert du service. Je vous remercie.
Merci Madame Lagoutte. Je précise que nous proposons une abstention à l'article 2, puisque si nous proposions un vote contre et qu'il y ait une majorité de votes contre au sein de la communauté de communes, il reviendrait au préfet de décider tout seul de la façon dont il souhaiterait répartir les charges. Nous pensons que ce n'est pas une bonne façon de gérer notre intercommunalité que de renvoyer ces questions-là au préfet. D'autre part, nous en avons débattu en conseil communautaire, et en conseil communautaire, il a été convenu que c'est effectivement la répartition 37 355 euros pour Nangis et la différence pour la communauté de communes qui serait effectivement mise en œuvre. Donc voilà, raison pour laquelle on ne va pas plus loin dans le durcissement de notre position, considérant déjà que c'était une façon assez amicale de définir la répartition des charges. On aurait pu effectivement considérer que n'ayant pas la compétence, il n'y avait pas forcément à transférer de moyens financiers, mais dans la mesure où Nangibus ne tourne qu'à Nangis, bon, allez. On essaie d'avoir au sein de cette communauté de communes un rôle apaisant et cohérent. Y a-t-il des questions, des remarques? Je mets la délibération aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération 150 porte sur l'approbation de la convention unique annuelle aux missions optionnelles du centre départemental de gestion du cinéma. Monsieur Veller.
Merci, monsieur le maire. Concernant cette convention, le conseil municipal avait décidé d'adhérer pour l'année 2019, délibération numéro 2018, décembre 182, en date du 17 décembre 2018, comme les années précédentes, aux prestations ressources humaines proposées par le centre de gestion de Seine-et-Marne en matière de conseil statutaire sur la carrière des fonctionnaires, expertise en hygiène et sécurité, maîtrise du handicap et de l'inaptitude physique, conseils et études ergonomiques en vue d'un maintien dans l'emploi. Le centre de gestion souhaite ainsi faciliter l'adhésion en améliorant la connaissance des missions auprès des collectivités et l'identification des prestations selon les besoins, et également de faire gagner du temps en globalisant les prestations. Ainsi, une convention unique, si jointe, regroupe la plupart des missions facultatives, avec un S, sauf médecine préventive, assurance groupe et secrétariat de mairie, qui est ainsi proposé. Les tarifs 2020 des missions intéressant notre collectivité sont les suivants. Vous avez un tableau qui reprend l'ensemble des prestations ressources humaines. Les tarifs 2018 pour la prestation assurance chômage forfait par dossier instruit au centre de gestion, option 1, 200 euros, option 2, 70 euros, option 3, 20 euros. Cela se déroulant au centre de gestion à Dieussin. La prestation à payer du statut, le forfait par participant, une session pédagogique d'une demi-journée 130 euros, d'une journée 260 euros, au centre de gestion, le repas étant inclus. En intra-mutualisé, la session pédagogique d'une demi-journée se monte à 150 euros, pour une journée 300 euros. Et enfin, intra dans une collectivité, la session pédagogique d'une journée pour 12 participants se montant à 1600 euros. La prestation examen de dossier individuel sera fixée au taux horaire d'intervention de 50 euros. En ce qui concerne les prestations ateliers, formation, retraite, le forfait participant est le suivant. Lorsque il se déroule au centre de gestion, l'atelier 1, dossier de validation, règlement et de rétablissement, pour une demi-journée 70 euros, pour une journée complète 140. Toujours au centre de gestion, pour l'atelier numéro 3, utilisation des applications informatiques de la SNRACL, la session d'une demi-journée sera de 80 euros. En intra pour l'atelier 1, 90 euros, et en intra pour l'atelier 2, 180 euros. Ce tableau et cette demande, cette approbation, tient compte effectivement des situations qui deviennent de plus en plus complexes et qui nécessitent de plus en plus régulièrement un certain nombre de dossiers nécessitant une analyse très pointue, ce qui occasionne bien évidemment un surcroît de travail important et cela requiert de renouveler cette adhésion. Je précise que, bien évidemment, ça ne veut pas dire que nos agents ne sont pas en mesure de remplir leur mission, ils le sont, mais je le répète, on a des dossiers qui sont extrêmement complexes, donc qui demandent l'intervention du centre de gestion de Seine-et-Marne, voire du centre interdépartemental de la Grande Couronne, lorsque les questions sont effectivement très particulières et très spéciales. Donc cette convention prendra effet à la date de la signature, ou plutôt le 1er janvier 2020, et elle sera valable jusqu'au 31 décembre de la même année. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir délibérer dans ce sens. Merci.
Monsieur Béler, il s'agit du renouvellement d'une convention à laquelle nous avons relativement fait peu appel, hein, pratiquement même pas appel du tout, mais bon, c'est un principe de précaution au cas où nous en avons à traiter, comme l'a très bien expliqué Monsieur Béler, des cas un peu compliqués. Y a-t-il des questions ou des observations? Je la mets aux voix qui s'y oppose, qui s'abstient, qui est adopté à l'unanimité. Je vais donc continuer de passer la parole à M. Véder pour la délibération 151, donc qui concerne l'indemnisation des congés annuels et des jours inscrits sur le compte épargne temps en cas de décès d'un agent.
Oui, merci Monsieur le maire. Donc cette délibération, elle a donc l'objet que vous venez d'indiquer. Le décret numéro 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif au congé annuel des fonctionnaires territoriaux précise en son article 5, alinéa 2, que, citation, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Par ailleurs, le décret 88-145 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale prévoit le versement d'une indemnité compensatrice lorsque l'agent n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels du fait de l'autorité territoriale. Ce même décret prévoit que l'indemnité compensatrice est égale à 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent. Toutefois, la Cour de justice européenne, dans son arrêt CJUE C118-13 du 12 juin 2014, estime que le droit à congé payé doit donner lieu à une indemnisation financière dès lors que la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur sans demande préalable. Dans un communiqué du 12 juin 2014, la Cour de justice de l'Union européenne déclare que le droit de l'Union s'oppose à des législations ou pratiques nationales qui prévoient, dans le cas où la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, que le droit à congé annuel payé s'éteint sans donner droit à une indemnisation financière au titre des congés non pris et que cette demande ne dépend pas de la demande préalable de l'intéressé ou de ses ayants droit. Concernant le nombre de jours pris en compte pour l'indemnisation, celui-ci est déterminé conformément à l'évolution de la réglementation, notamment concernant le droit à report des congés annuels en cas de congé de maladie. Le juge administratif a précisé les conditions de ce report en prévoyant la possibilité de prendre les congés non pris en raison de la maladie au cours d'une période de 15 mois après le 31 décembre de l'année, au titre de laquelle sont générés les droits, dans la limite de 4 semaines et après demande de l'agent. Par conséquent, il convient en cas de décès de l'agent de prévoir l'indemnisation des congés annuels non pris dans les mêmes proportions qu'en cas de report pour maladie, à savoir la période de référence de 15 mois et dans la limite de 4 semaines par année. Par ailleurs, en cas de décès d'un titulaire de compte épargne temps, les jours épargnés donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit, conformément à l'article 10.1 1 du décret numéro 2004-878 du 26 août 2004, modifié, relatif au compte épargne de temps dans la fonction publique territoriale. C'est une dépense obligatoire, même si la délibération de la collectivité n'a pas prévu la possibilité de monétisation. Il convient donc de délibérer afin de fixer les modalités d'indemnisation des congés annuels non pris en cas de décès de l'agent, de confirmer le paiement des jours inscrits sur le compte épargne temps en cas de décès conformément au décret numéro 2004-878 du 26 août 2004. Donc dans la délibération, je vous passerai les décrets et les arrêts. Je vous passerai également les considérants. Je prendrai simplement lecture des articles 1, 2, 3 et 4. L'article 1 décide qu'une indemnité compensatrice des congés annuels non pris sera versée à l'agent fonctionnaire ou non titulaire en cas de décès. Cette indemnité est égale à 1/10 de la rémunération totale brute proportionnellement au nombre de jours de congés annuels non pris. Le nombre de jours à indemniser est déterminé en considérant que le droit à congé reste acquis au cours d'une période de 15 mois après le 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont générés ces droits, dans la limite de 4 semaines, soit 20 jours par année. Article 2 dit qu'en cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Les montants forfaitaires par jour accumulé pour chaque catégorie statutaire sont fixés par arrêté. Article 3 dit que les modalités d'indemnisation suivront les revalorisations en vigueur. Enfin, l'article 4 dit que la dépense en résultant est inscrite en section de fonctionnement au chapitre 012.
Merci, monsieur Vénère. Une délibération rendue indispensable pour un cas particulier récent et donc qui servira pour d'autres situations si malheureusement elle devait advenir. Des questions, des demandes de précision, des avis, monsieur Soucier. Avec le micro, s'il vous plaît, pour l'enregistrement.
Oui, tout simplement pour la forme. L'article 1 décide qu'une indemnité compensatrice des congés annuels non pris sera versée à l'agent. J'ai à l'agent et du CDS qui pourra être au compte de l'agent. L'article 2.
Aux ayants droit de l'agent.
Aux ayants droit. Ouais.
On le met à l'article
2. Article 2 sera fixé par arrêté. Ce qu'on veut préciser, j'imagine que c'est un arrêté ministériel. C'est pas un arrêté municipal, c'est pas un arrêté préfectoral.
L'article 2 dit qu'en cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Les montants forfaitaires par jour cumulés pour chaque catégorie statutaire sont fixés par arrêté. Et sur cet arrêté. C'est un arrêté municipal. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est lui qui provoque ce droit à reversement aux ayants droit. Voilà. Donc, d'ailleurs, on considère que l'arrêt de la Cour de justice européenne aurait dû nous dispenser de délibérer, mais ce n'était pas l'avis de la DGFiP.
Donc c'est un arrêté municipal.
Nous complétons par arrêté municipal et donc ça sera versé effectivement aux ayants droit. Vous avez parfaitement raison, monsieur Société. Je peux mettre la délibération en voie avec ces deux modifications. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Vous aurez remarqué la parfaite coordination avec Mme Galochet qui vient juste d'arriver pour pouvoir présenter la délibération 152.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous et toutes.
Décision modificative numéro 3 au budget principal en section de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2019. Ça, c'était une première. Hein. Donc, tous les ans, on nettoie définitivement pour l'année le budget qui a été voté donc, en avril. Et on refait un petit état de ce qui s'est passé en investissement, surtout en fonctionnement évidemment, mais surtout en investissement, puisque à la fin de l'année, il va falloir bien entendu basculer les restes à réaliser. Alors, trois dépenses imprévues sont venues grever le budget principal. En juin 2018, la ville a perçu 26 107,99 € au titre des droits d'enregistrement. Le Trésor public informe la ville en octobre que cette somme était en réalité destinée à une autre commune. Il a donc été nécessaire de rembourser cette somme. Il faut couvrir les crédits au bon endroit. Pour plus de lisibilité et afin d'assurer la transition entre les budgets 2019 et 2020, le solde de la seconde tranche de travaux d'enfouissement de la rue de la Bertauche sont inscrits au budget 2019 et constitueront des restes à réaliser pour un montant de 53 647,05 € en TTC et également le solde de l'aménagement de l'allée de la gare pour son montant de 94 912,63 € TTC. Tout ça de ces deux opérations s'élève à 148 559,68 €. Une étude et des travaux supplémentaires d'un montant de 38 876 € a été rendue nécessaire par la difficulté que représente la démolition de la maison en état de péril imminent rue Victor Hugo. Cette dépense sera intégralement remboursée par les propriétaires et par conséquent sera également inscrite en recette de fonctionnement. Il est proposé de financer les deux premières dépenses, notamment par les mesures suivantes. Grâce au nouveau processus de dématérialisation et à la réduction globale du nombre d'impressions papier, 2000 euros d'économie ont été réalisés sur le budget de fourniture administrative. Les départs survenus en début d'année au sein des services de la police municipale, de la jeunesse et de la vie locale n'ont pas été immédiatement pourvus du fait de la difficulté à recruter sur les postes d'animateur et de policier municipal. Ce décalage entre départ et nouveau recrutement a permis d'économiser environ 45 000 euros. La phrase d'après, la dernière inférieure pour la supprimer. Une recette supplémentaire de 32 628,95 € a été perçue au titre de la taxe sur la consommation finale d'électricité, la TCFE. Et enfin, l'attribution d'une subvention de 73 600 € au titre de la requalification du trottoir père de l'avenue du Maréchal Foch a été confirmée récemment. Il est donc proposé d'intégrer cette recette au budget de cette année, recette d'investissement. Donc, du coup, vous avez le petit tableau qui suit dans le projet de délibération par lui-même, où nous avons des dépenses de fonctionnement nouvelles, mais qui s'équilibrent avec des recettes de fonctionnement nouvelles également, pour 71 504,95 €. Et pour pouvoir pallier donc, aux dépenses nouvelles de l'investissement, de la section d'investissement, c'est pour un montant total de 107 559,68 €. On prévoit donc des annulations de dépenses pour 21 000 euros au chapitre 21 et par contre des dépenses nouvelles pour 148 559,68 €, essentiellement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la Bertauche et la gare. Et du coup, eh bien, en face, vous avez l'inscription de la recette du département 73 600 et un virement de la section de fonctionnement pour 53 959,68 €. Et nous équilibrons cette section d'investissement pour un montant total de 127 559,68 €.
Si, chez pour cet exposé, y a-t-il des questions, des observations? Non, je n'en vois pas. Je mets la décision administrative aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une autre décision modificative qui concerne le budget annexe de l'eau, cette fois-ci.
Délibération numéro 153. Par délibération numéro 146 du mois de décembre, le Conseil municipal a pris une décision modificative au budget annexe eau potable en vue d'ajuster les dotations aux amortissements. Or, une erreur matérielle sur le montant inscrit à l'article 28.13 construction,
32 326,09 au lieu de 32 236,09 ne permet pas de rendre cette décision recevable auprès du comptable public. Donc, on réalise une opération blanche puisque la dotation aux amortissements est prise sur le plan comptable, une recette d'investissement supplémentaire qu'il convient de compenser par les dépenses de fonctionnement. Donc on rajoute 1254,57 euros aux dotations en question.
Il s'agit purement d'une opération technique. Des questions ? Je mets la délibération aux voix. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? Je vais adopter l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons ensuite passer à toute une série d'autorisations d'engager, liquider, de mandater les dépenses d'investissement de l'exercice 2020 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc, toute une série de budgets, nous prenons cette précaution. Je rappelle que ce n'est pas parce que nous nous accordons la possibilité de le faire que nous allons forcément le faire. Alors, 155.
Le Code général des collectivités territoriales et l'instruction budgétaire et comptable M14 prévoit la possibilité, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, la possibilité pour l'exécutif de la collectivité territoriale de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente, jusqu'à l'adoption de ce budget. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. Et en outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, 30 avril, lorsqu'il y a renouvellement des mandats électoraux, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et non compris également les restes à réaliser. La limite sera donc de 25% des investissements inscrits au budget 2019, donc budget primitif plus décision modificative, hors restes à réaliser 2018 et hors chapitre 10 et 16, soit 1 539 061,04 que multiplie 25%, ça nous fait 384 765,26 €. Nous prévoyons de demander des autorisations de dépenses pour le début de l'année 2020 en les répartissant comme suit. Au chapitre 20, immobilisation incorporelle, 23 000 euros, c'est-à-dire frais d'études 15 000, concessions et droits similaires 8 000 euros. En ce qui concerne le 2051, ce sont des logiciels hein, et on va en avoir besoin effectivement puisque les ressources humaines sont obligées à partir du 1er janvier 2020 de faire des taxes mensuelles et non plus annuelles. Donc il va falloir changer un petit peu le paramétrage de leur logiciel RH. Je pense que ça en fait partie. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, donc pour la différence, 361 765,26 €. En 21, 312, on prévoit de porter 30 000 euros sur les bâtiments scolaires. 21, 318, les bâtiments publics dans leur ensemble, non décrit, 20 000 euros. Des installations générales, 113 000 euros. Donc il y a notamment le skate et puis peut-être éventuellement, je dis bien éventuellement, les tennis. Installation de voirie 57 765,26 €. 21,58 €, autres matériels et outillages 89 000 euros. Et ça, c'est pour faire face à la tranche ferme de la vidéo protection sur la mesure de clair. En 21,83 €, on prévoit toujours un peu d'informatique, 1 000 euros, pardon. En 21,84 €, mobilier 8 000 euros. Il y a une somme qui sera effectivement prise, on ne connaît pas le montant pour l'instant, mais effectivement qui sera prise puisqu'on a du mobilier pour une personne qu'il faut, donc il faut aménager le poste de travail suite à un handicap. Et en 21,88 €, 44 000 euros.
J'ai des questions, des commentaires ? Non, je ne vois pas. Donc, que je mets à la délibération. On voit qu'il s'y oppose. D'accord. 6 voix, là, pardon. 6. Ah, alors, attendez. 3 voix, d'accord. D'accord. Ah, 3 voix. Qui s'abstient ? D'accord. Donc, bah, qu'il l'adopte, excusez-moi, parce que du coup, voilà. 21, 22, 23. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la délibération 155 qui concerne donc le budget eau potable. Même méthode. On s'autorise la possibilité d'intervenir d'ici la fin du mois d'avril, parce que je rappelle que compte tenu des élections municipales, les budgets seront votés non plus avant le 15 avril, mais plus tard le 30 avril. Et donc, il nous faut cette possibilité d'agir au cas échéant.
Donc, pareil, méthode de calcul, les investissements 2019, 567 781 €, que, donc, divise le cas, ça nous fait 141 945. On prévoit des frais d'études au chapitre 20 pour 10 €, du matériel spécifique d'exploitation 25 000 et en immobilisation corporelle 20 000, donc ça nous fait un total de 33 000, et des immobilisations en cours, donc ce sont des travaux à faire, hein, 98 945 25. Donc toujours pareil, sachant qu'on n'est pas obligé de tout engager.
Est-ce que nous sommes sur le même vote ou pas ? Oui. Donc 23 contre, 23 pour.
3 contre.
Oui, t'as dit 23. Il dit 23 contre. C'est pour faire la régie, hein, pour voir ce qu'il suit. Bon.
Si c'était ça, on fermait les
guillemets. Excusez-moi, bon, soyez bien clair pour le compte rendu, si nous comprenons bien. Monsieur Gavarou, vous votez contre. Et c'est madame. D'accord. Voilà. Pour monsieur Ceci, c'est plus clair. Voilà. Oui, c'est vous et votre pouvoir, donc c'est vous et madame de Villain. Voilà. Allez. Ce soir. Alors, nous avons la 156. Donc, c'est le budget assainissement.
Alors, donc, le montant total des dépenses d'investissement inscrites en 2019, 132 033 72, que multiplié à 33 008 43. Nous prévoyons toujours en frais d'études de 203 6 000 €, en matériel spécifique d'exploitation 15 000 €, en installation matérielle outillage technique 10 000 €, autres immobilisations corporelles 2008 43. Donc chapitre 26, chapitre 21, 27 008 43.
Je rappelle, ce sont des dispositions de prudence. Hein. Si vous regardez ce qui est arrivé récemment à la ville de Damary-les-Lys, où une grosse conduite d'eau a éclaté, ben vous avez tout un quartier qui n'a plus d'eau. Et si ça vous arrive entre le 1er janvier et le 30 avril, ben vous n'avez pas de capacité à engager les travaux si ça rentre dans le cadre. Voilà. Et après, on dira qu'on a des problèmes d'eau sur la ville de Longines. Eh oui. Eh oui, oui. Toujours être responsable dans cette décision. Alors, même vote toujours ?
Bien sûr.
Donc, c'est un problème sur l'assainissement. On attendra le mois de mai pour pouvoir intervenir. C'est parfait. Alors, 157, c'est vrai, on a beaucoup de budget annexe, hein, donc là, il s'agit du budget activité culturelle, assujetti à la TVA, etc., etc. Donc, même mode de précaution.
Activité culturelle, montant inscrit en investissement au budget 2019, 68 423 €. Et pour le quart, 17 105,70, qui seront répartis en installation générale 13 105,70, matériel de bureau informatique 1 500, mobilier 1 500, autres immobilisations corporelles 1 000 €.
D'accord, même vote. délibération 158 porte sur le budget centre aquatique.
Montant inscrit au budget d'investissement 2019, 50 085 euros, donc le quart 12 521,25. Nous prévoyons des installations générales pour 8 521,25, matériel de bureau informatique 1 000 et autres immeubles corporels 3 000.
Même vote. Merci. Monsieur Saussier, je vous en prie.
Oui, je confirme mon vote, mais monsieur le maire, je pense que la réparation du conduit d'eau, ça peut rentrer dans le fonctionnement.
Peut-être. Ça dépend. Voilà. Si c'est de l'entretien ou de la régénération, vous savez, c'est. Alors, nous en avons fini avec cette batterie d'autorisation d'engager, liquider, de mandater les dépenses d'investissement. Nous passons à délibération 159. Il s'agit donc de délibération d'effacement de titre de recette.
Oui, alors, par jugement en date du 26 septembre 2019, le tribunal d'instance de Melun a validé les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne. Le plan de remboursement par le tribunal ne prévoit pas le remboursement, mais l'effacement total de la dette, et cette décision s'impose donc aux créanciers. Donc, on vous a énuméré tous les titres qui sont concernés pour des petites sommes, qui représente un montant total de 290,68 €. Et donc, il vous est demandé de bien vouloir admettre les titres de recette en créance éteinte pour ce même montant.
Une délibération qui s'impose. On la prend dans la forme. Des questions ?
Excusez-moi, monsieur le maire, là, je viens de refaire un calcul là. Sur la 157, c'est 17 105,75, pas 70.
Sur la délibération 157. Alors vous nous dites, excusez-moi.
Ça fait 17 105,75.
Ah oui, c'est un point d'arrondi. Voilà. De toute façon, vous votez contre, donc même pour les 5 centimes de plus. D'accord.
Merci pour nous.
Mais nous corrigeons. Bien. Sur le 159, vous avez vérifié le total, c'est, on est bien 290,68 ou... Bon, je mets au voix cette délibération de forme qui s'y oppose, qui s'abstient, elle est adoptée à l'unanimité. Et nous avons la délibération 160. Et je vais demander à Madame Jérôme de bien vouloir vous présenter cette convention relative aux travaux de mise sous pli pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 entre l'État et la commune de Nangis. Voilà, bon, vous avez une belle notice explicative. Je ne sais pas si Mme Jérôme va tout nous présenter.
Mais... Oui.
Oui. Oui. Oui. D'accord.
Dans le cadre des élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020, la réglementation électorale prévoit les modalités organisationnelles relatives à la diffusion de la propagande électorale. Dans les communes de 2500 habitants et plus, des commissions de propagande sont chargées, conformément à l'article L241 du Code électoral, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. Leur composition est précisée à l'article R32 du Code électoral. Un magistrat désigné par le premier président de la Cour d'appel de Paris, chargé de la présidence, un fonctionnaire désigné par le préfet, chargé du secrétariat, un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande. Un arrêté préfectoral portera prochainement constitution des commissions de propagande, et ce, au plus tard, à l'ouverture de la campagne électorale. Le rôle des commissions est indiqué aux articles R34 et R38 du Code électoral. Elles contrôlent la conformité des circulaires et des bulletins de vote des listes de candidats. Elle adresse au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et en cas de ballotage le jeudi précédant le second tour à tous les électeurs une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste. Elle envoie à la mairie aux mêmes dates les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Afin de faciliter ces missions, les dites communes sont sollicitées sur les travaux de mise sous pli de la propagande. L'État assurant la prise en charge financière de ceux-ci en application de l'article R242 du Code électoral. La préfecture de Seine-et-Marne a donc adressé en ce sens dernièrement à la commune une convention pour les travaux de mise sous pli de la propagande électorale des candidats aux élections municipales. Les missions de la commune seront d'accomplir dans les délais fixés par le Code électoral pour le premier comme pour l'éventuel second tour de scrutin. Le libellé des enveloppes, étiquette ou impression directe des adresses des électeurs sur les enveloppes d'un format de 176 mm sur 250 mm, format B5, sont fournies par la préfecture. La mise sous pli de la propagande électorale, une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste candidate, la préparation des bulletins de vote afin de pourvoir l'ensemble des bureaux de vote de la commune en nombre au moins égal à celui de leurs électeurs inscrits. Les électeurs destinataires de cette propagande sont ceux inscrits sur les listes électorales générales et complémentaires municipales de la commune arrêtée entre le 24e et le 21e jour précédent le scrutin, soit entre le 20 et le 23 février 2020. La municipalité propose de faire réaliser cette opération en régie, comme pour les élections lorsqu'une commission de propagande était nécessaire. Une enveloppe budgétaire sera allouée à la collectivité pour rémunérer le personnel affecté à cette mission. Celle-ci est calculée par la préfète en fonction du nombre d'électeurs inscrits au 7 février 2020, du nombre de listes candidates et par tour de scrutin. La subvention couvre l'ensemble des dépenses liées à la mise sous pli, dépenses de personnel, charges patronales, location de salle, le cas échéant, étiquettes et autres dépenses occasionnées par la mise sous pli. L'enveloppe est fixée par tour de scrutin. 0,30 centimes par électeur jusqu'à 6 listes candidates, puis 0,04 par liste supplémentaire. Enfin, la commune sera chargée de remettre les plis électoraux conditionnés par boîte au service de la poste pour un envoi coûtant le mercredi 11 mars 2019 pour le premier tour et le jeudi 19 mars 2020 pour le second tour des élections. Les frais postaux liés à l'acheminement des plis sont intégralement pris en charge par l'État. Afin de permettre le bon déroulement des travaux de mise sous pli pour les élections municipales les 15 et 22 mars 2020, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention proposée par les services de la préfecture et d'autoriser M. le maire à la signer.
Merci beaucoup, Mme Jérôme, pour cette présentation très détaillée. Vous avez encore des questions ? Par rapport à... Non ? Madame Chute.
Juste au niveau du mercredi 11 mars 2020.
Non, 2019, comme ça. Alors, oui. Non, mais c'est pas dans les libérations. Dans les libérations, on parle bien des 15 et 22 mars 2020. Je mets la délibération aux voix. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? Donc, adopté à l'unanimité. La délibération suivante porte sur la rétrocession à la commune d'une concession funéraire avec remboursement pro rata temporis et d'une case à titre gratuit. Et là, vous avez aussi une notice explicative. Il ne faut pas dire que nos services ne travaillent pas avec beaucoup de précision. Madame Giraud, c'est encore à vous. Comme vous le voulez. Hein,
Alors, c'est une case qui nous est remise à titre gratuit et une demande de concession, puisque les personnes ont décidé Il allait se faire enterrer dans un village voisin et une dame qui a redonné la case puisque son époux a été transporté dans une autre ville. Voilà. Donc, on a calculé au prorata de ce qu'ils avaient payé pour leur rembourser. Voilà, c'est tout. Ça suffit ?
Autrement, on peut vous faire lecture de... Non, c'est... D'accord. Bien, avec ces explications... Alors, c'est vrai que, mine de rien, il y a une procédure administrative extrêmement pointue. À suivre. Donc, qui s'oppose à ces rétrocessions ? Alors, à la rétrocession, d'abord, à titre gratuit de la CAS.
Il y a de la CAS.
Voilà, c'est la 161. Alors, qui s'oppose ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. La 162, même vote ? Même vote. D'accord. À l'unanimité. Nous avons ensuite, ce n'est pas une délibération, c'est une information au conseil municipal. Et c'est M. Véler qui nous la présente.
Oui, merci M. le maire. Comme notre habitude, nous avons effectivement des informations à communiquer au conseil municipal concernant des mises à disposition ou renouvellement de mises à disposition. Suite à l'apparition de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, et ce, à compter du 1er janvier 2020, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités, mutations internes à disposition détachement, ne relèvent plus des attributions des CAP. Les mises à disposition, nouvelles et modifications, ne sont donc plus soumises préalablement à l'avis de la commission administrative paritaire. Conformément à l'article 1er du décret 2008-580 du 18 juin 2008, l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale est informée préalablement des mises ou renouvellements de mises à disposition du personnel communal. À ce titre, et pour l'année 2020, est mise à disposition auprès du CCAS de Nangy. Mise à disposition à compter du 1er février 2020, un assistant socio-éducation de seconde classe à temps complet.
Monsieur Valère est d'astreinte. Alors, nous en étions. À ce titre, allez, et pour l'année 2020, est mis à disposition auprès du CCAS de Nangy, mise à disposition à compter du 1er février 2020, un assistant socio-éducatif, je pense, hein, de seconde classe, à temps complet. Renouvellement de la mise à disposition à compter du 1er janvier 2020, un adjoint administratif principal de première classe à temps complet. Renouvellement de la mise à disposition à compter du 1er décembre 2020, un rédacteur principal de première classe à temps complet. À ce titre, et pour l'année 2020, il y a disposition auprès des caisses des écoles de Nangy. Renouvellement de la mise à disposition à compter du 1er janvier 2020, 4 agents spécialisés des écoles maternelles de première classe à temps complet, 1 agent spécialisé des écoles maternelles de deuxième classe à temps complet, 1 agent spécialisé des écoles maternelles de première classe à raison de 32,93 heures hebdomadaires. À ce titre, pour l'année 2020, est mis à disposition auprès de la communauté de communes de la Brie-Nangislienne, à compter du 2 février 2020, un technicien principal de deuxième classe à raison de 18,5 heures hebdomadaires. À ce titre, et pour l'année 2019, est mis à disposition auprès du syndicat intercommunal pour la construction d'une piscine à Nangy. Renouvellement de la mise à disposition à compter du 1er juin 2019, un adjoint administratif principal de deuxième classe à raison de 3,5 heures. À ce titre, et pour l'année 2019, est mis à disposition auprès du syndicat intercommunal de traitement et de transport de l'eau potable, donc un renouvellement de la mise à disposition de cette mise à disposition à partir du 1er juin 2019, un adjoint administratif principal de deuxième classe à raison de 10 heures. Voilà les informations sur les communiqués. Des questions ? Monsieur Saussier.
Pas de questions, mais simplement je souligne votre rigueur, puisque un agent spécialisé des écoles maternelles de première classe a raison de 32,93 heures.
Ah oui.
Je veux dire que là, effectivement, je pense que le chronomètre sera en main pour vérifier.
Ça, vous pouvez y compter. Hein. Merci. Donc, Nous avons fini d'examiner l'ordre du jour. Nous avons reçu une série de questions orales du groupe de l'opposition. Alors, qui les présente ? Allez-y.
Monsieur le maire, vous indiquez dans le journal de la République du 9 décembre 2019 dans l'encart d'Angers Tipol, FM Logistique, qui sera un site de stockage, sera classé Céveso Soyo étant aussi la dénomination de Céveso AS, forme abrégée de Céveso soumise à autorisation servitude d'utilité publique. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer où sont les autorisations? Où en sont les autorisations de servitude? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quels sont les produits susceptibles d'être accueillis sur ce site? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous préciser quels sont les plans d'urgence, POI et PPI, qui vont être obligatoirement mis en place? Et enfin, avez-vous chiffré la dévalorisation des biens immobiliers des Mangiciens, patrimoine déjà grandement dégradé depuis 10 ans, en acceptant l'implantation d'un établissement à risque d'accident majeur sur notre commune?
Merci de cette question très, très intéressante. Alors, premier commentaire, non, je n'indique pas, moi, dans le journal de la République du 9 décembre, dans l'encart d'Angers, c'est pas moi qui parle, hein, c'est un journaliste qui rencontre d'un entretien que nous avons eu, et j'ai dû d'ailleurs faire procéder déjà à une première modification, puisqu'il indiquait que nous n'avons pas pu procéder à l'affection de la rue Aristide Briand parce que le conseil départemental n'aurait pas garanti un de nos emprunts. Ce n'est pas tout à fait comme cela s'agit, donc je lui repréciser que nous attendions que des travaux importants soient faits sur l'hôtel, l'ancien hôtel-restaurant du Dauphin par la société Mont-Logis avant de pouvoir effectivement procéder à la réfection de cette voirie, puisque nous allons avoir un certain nombre de passages de camions importants. Et quand je vois les dégâts qui ont été provoqués aujourd'hui par une nacelle affrétée par trois moulins Habitat pour démousser les toitures, et que cette nacelle s'est installée sur les trottoirs, juste à proximité d'une bouche d'égout, évidemment, la nacelle s'est un petit peu enfoncée. Donc, nous procéderons à ces travaux lorsque les travaux de réhabilitation de cet hôtel sera transformé en logement auront été terminés. Et je disais que une des raisons du retard a été effectivement la décision du conseil départemental de Seine-et-Marne de ne plus garantir aucun emprunt de bailleur social sur le territoire de la commune. Je profite pour dire que je n'en ai jamais été averti par le moindre courrier de M. le président du conseil départemental, c'est le bailleur qui m'en a informé, et que l'ensemble du conseil départemental que j'ai interrogé m'ont dit que cette décision-là n'avait jamais fait l'objet de la moindre délibération en conseil départemental. Donc je ne tarderai pas d'ailleurs à interroger M. le président du conseil départemental sur cette question-là. Donc ça a effectivement contraint le bailleur à réorganiser ces garanties d'emprunt, et ça nous a fait perdre encore quelques mois. Le bailleur qui j'étais en relation il n'y a pas très très longtemps a dit que ces questions-là maintenant sont derrière lui et qu'il envisage donc de pouvoir démarrer les travaux donc au premier trimestre 2020. Nous verrons bien. Donc c'est pour vous dire que non, c'est pas moi qui ai indiqué non plus que FM Logistique serait classé Céveso Seuil Haut. Non, FM Logistique a effectivement entrepris auprès de la préfecture de Seine-et-Marne une procédure d'autorisation de façon à lui permettre de stocker ou non, et avec une certaine quantité ou une autre, un certain nombre de produits. Alors, je pense qu'il faudrait que vous posiez plus concrètement la question au conseil communautaire, parce que nous ne sommes pas en relation directe avec FM Logistique. Je me souviens que lors d'une réunion que nous avions eue avec leurs représentants, ils nous indiquaient que contrairement à l'établissement de Mormon qui est monocliant, c'est-à-dire qu'ils ont un seul client qui est dans la biscuiterie, qui remplit la totalité de leur entrepôt. Leur souhait de vouloir s'implanter à Nangy était justement de pouvoir être multi-client. Et qui dit multi-client risque effectivement de voir stocker un certain nombre de produits. Alors, je vous rappelle que les bombes d'insecticides, par exemple, si vous en avez plusieurs centaines de tonnes, vous êtes obligé d'être Céveso seuil pour 500 tonnes. Non, mais c'est un exemple. Vous avez un certain nombre d'ampoules aussi, aujourd'hui, un certain nombre de piles. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'un site de production, il s'agit d'un site, effectivement, de logistique, donc, et de préparation de commandes, donc avec des marchandises qui transitent par le site et qui sont ensuite redistribuées. C'est à Mormon, c'est ce qui se passe avec les biscuits, hein, donc tous les biscuits d'une certaine certaines marques sont distribuées à partir du Mormant, de Mormant dans toute la France et dans le Benelux. Donc voilà ce que nous savons aujourd'hui de cette installation. J'ajoute aussi que FM Logistique nous dit qu'à terme, c'était 350 emplois qui étaient concernés. Emplois de logistique, aussi des emplois de conditionnement, un peu ce qui se fait déjà, à Mormant. Alors voilà, donc, est-ce qu'il faut effectivement s'opposer à la création de 350 emplois à Nangy pour des problèmes de stockage qui seront liés à une procédure d'autorisation renouvelée tous les 5 ans. Moi, personnellement, je préfère que nous soyons dans ce type d'activité contrôlée plutôt que des entreprises qui, parce qu'elles stockeront des produits en moindre quantité, pourraient présenter moins de risques. Vous savez très bien qu'un incendie dans une zone d'activité, nous l'avons vu très très récemment en Normandie, peut avoir des conséquences, y compris sur les bâtiments. Moi, ça ne me dérangerait pas du tout que la préfecture dise on est en site Céveso seuil pro, qui dit, parce que je pense que c'est plus de garantie. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit au journaliste, et en lui disant qu'évidemment, en ce moment, ce type d'étude d'autorisation mettait un petit peu plus de temps, puisque l'actualité a indiqué qu'il fallait faire un tout petit peu attention. Alors, après, moi, je ne sais pas, il faudra que vous me disiez quels sont vos éléments de mesure pour indiquer que le patrimoine s'est grandement dégradé à Nangy depuis 10 ans. Hein, voilà. Peut-être pour le prochain conseil municipal, vous me donnez quels sont les éléments d'information qui vous permettent d'affirmer cela sans rien. Autre question.
Est-ce que justement pour la logistique, nous avons appris qu'ils ont l'obligation de faire un bassin de rétention privé pour eux.
Oui.
Et c'est pour ça que les bassins de rétention à l'entrée de la zone industrielle vont être impactés dans le sens où ils seront moins importants et que FM Logistique aura ses propres bassins de rétention.
Oui, ce qui est prévu, hein, c'est-à-dire que le moment où les bassins de rétention ont été réalisés, on ne connaissait pas les intentions de FM Logistique. Donc il doit y avoir de la rétention à la parcelle, à partir du moment où on a une installation qui représente la moitié de la zone d'activité, effectivement, ils ont une dimension relativement plus importante que ce qu'on aurait pu imaginer à ce moment-là. Deuxième question ?
Oui, simplement une remarque sur le marché. Des logements sociaux en cœur de ville, là où on pourrait attendre des commerces ou d'autres services de proximité, une installation Céveso dans une zone d'activité où on pourrait attendre de l'artisanat ou du commerce, je veux dire que l'orientation d'urbanisme de la commune.
D'accord, d'accord, ne vous convient pas. Excusez-moi, monsieur Ceci, restons, s'il vous plaît, sur les sujets que vous évoquez. Hein. Donc, si vous voulez poser une question sur le logement social la prochaine fois, n'hésitez pas.
Je suis dans le sujet de la zone de l'activité, ces réseaux.
Vous votez pour, en fait, c'est communautaire, toutes ces déclarations, vous votez pour.
Allez, stop. Je vous propose de ne pas ouvrir de polémique, il y a des questions, on y répond.
Est-ce qu'on pourra poser la question jeudi soir?
Il faut que vous vous fassiez, si vous vous dépêchez, je ne sais plus quelles sont les 48 heures.
On a le temps.
48 heures à l'avance, mais oui. Je ne suis pas président de la communauté de communes.
Non, mais est-ce que vous permettez qu'on la pose?
Donc, je n'ai pas, pas vous autorisé la poser ou pas, hein, le conseil communautaire. Hein. Alors, qui me pose la suivante? Bon, là,
Monsieur le maire.
C'est n'importe quoi, mais
c'est
pas
ça.
De chance.
Pouvez-vous nous présenter un état des présences et absences de tous les adjoints et conseillers aux conseils municipaux depuis le 4 juillet 2016, date à laquelle Stéphanie Schutt a intégré le conseil municipal suite à des reproches faits à une conseillère municipale de l'opposition?
Vous ne voulez pas dire qui c'est? Non, nous n'allons pas vous adresser un état des présences parce que vous avez vous-même l'ensemble des comptes rendus, donc vous pouvez largement le faire vous-même. Si j'ai adressé des reproches, c'était parce que une conseillère municipale de l'opposition s'est permis de poster sur une page Facebook une information concernant la qualité de l'eau datant de 15 ans. Ou elle s'en était pas aperçue, c'est dommage, je pense qu'il faut prendre toujours la précaution de bien lire jusqu'au bout avant de relayer. Ou alors il y avait la volonté, je pense que non, c'est pas possible. Non. Des mensonges, des fake news, c'est absolument pas possible. C'est un peu comme le maire de Nangis délinquant. Très sérieusement, je pense que quand vous êtes élu conseiller municipal, ça vous confère des responsabilités particulières. Et que si vous avez une inquiétude, si vous voyez passer une information qui vous surprend, avant de la relayer, on la vérifie. Et je pense que c'est effectivement dommage de le faire. J'avais simplement remarqué que la conseillère municipale de l'opposition en question devait siéger dans un certain nombre de commissions qui avaient un peu trait à l'eau. Je me dis que si elle l'avait fait, peut-être qu'elle aurait été directement informée. Vous savez, on ne peut pas jouer avec ce genre de choses. Vous avez vu que récemment, Coulommiers est impacté par des problèmes de qualité d'eau. Je vous parlais de l'incident d'un mari d'hélice qui fait d'un seul coup vous vous retrouvez sans être dans la possibilité d'alimenter un quartier et à livrer des bouteilles d'eau minérale. Donc voilà.